Suivez Priorité Santé avec la BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, qui rejoint officiellement le groupe Sounou.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Une 8e édition du mois du sans tabac qui s'achève en France. Un défi, tentative, aboutie ou non, pour en finir avec cette habitude qui, lorsque l'on tente de s'en défaire, montre son vrai visage, celui de la dépendance. Alors arrêter de fumer, c'est une étape importante pour soi, pour les autres aussi. Une étape qui peut se préparer, se réfléchir et même se faire accompagner par un professionnel de santé. Arrêter le tabac parce que l'odeur est désagréable et peut gêner l'entourage ou soi-même. Arrêter la cigarette parce qu'un proche est malade ou est mort à force de fumer. Ne plus fumer parce qu'à force d'être informé sur les méfaits du tabac pour le souffle, pour la peau, pour les artères, pour les poumons ou d'autres organes, eh bien, on se dit que non, le cancer, la BPCO, l'athérosclérose sont des maladies redoutables et arrêter de fumer, c'est aussi un geste clé de prévention. Et puis, on peut aussi arrêter de fumer parce que décidément, ça coûte trop cher. Alors, comment passer des bonnes résolutions aux actes? Vous témoignez aujourd'hui dans Priorité Santé, que vous soyez vous-même fumeur, fumeuse ou que quelqu'un de votre entourage soit lui-même concerné. Notre numéro 33 84 22 75 75 ou la page Facebook de l'émission. Arrêter de fumer par peur, par économie, simplement parce que c'est le bon moment, trouver les bons conseils. Avec nous en studio, professeur Bertrand Dotzenberg, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes tabacologue à l'Institut Arthur Verne. En deuxième partie d'émission, on va retrouver en ligne de Côte d'Ivoire le professeur Alexandre Kouassi Boko, pneumologue et responsable de l'unité d'aide au sevrage tabagique au CHU de Cocody à Abidjan. Et puis il sera question de bien-être en fin d'émission à l'occasion d'un forum dédié qui se tient à Thiès au Sénégal jusqu'à vendredi. On va donner la parole à Karina Ndiaye, directrice de partenariat de l'ONG Tostan.
Priorité santé sur RFI.
Le mois sans tabac et l'actualité de la lutte contre le tabac avec de nouvelles annonces hier du gouvernement, du ministre de la Santé. Toute une nouvelle série de mesures bien précises qui seront appliquées prochainement. Les lois ne sont pas encore votées, tout ça n'est pas encore directement passé au concret. Mais en tout cas, on prévoit donc du côté des autorités de santé de nouvelles hausses du tabac, des cigarettes, des prix donc, extension des espaces sans tabac et puis une mesure très concrète et très parlante aussi, ce sera, toujours au futur, l'interdiction de la vente des produits de vapotage jetables. Ça s'appelle des puffs et c'est particulièrement destiné à un public de jeunes, on peut même dire d'ados. Est-ce que pour vous, professeur Dotzenberg, avec cette très longue expérience de lutte contre le tabac, cet arsenal de mesures donc, qui va prochainement certainement se concrétiser, ce sont des bonnes choses?
C'est plutôt des bonnes choses. Il y a une mesure qui est très insuffisante, c'est l'augmentation du prix, qui est tout à fait essentielle. Et là, on va avoir des petites augmentations de moins de 5% qui n'ont aucune efficacité, sauf d'enrichir les buralistes et les cigarettiers et donner un peu plus de taxes à l'État. C'est un petit peu la stratégie qu'on fait quand on est dans une grande surface et qu'on veut vendre, on veut vendre ces produits plus chers. On se dit jusqu'à combien je peux les vendre pour pas en vendre moins.
Parce que ce qui est important, c'est qu'il y a eu des études scientifiques très sérieuses qui disent qu'il faut qu'il y ait vraiment une hausse significative pour que les gens, ça les bloque. Donc, à la limite, on va dire 1 euro en France, je dis bien en France, augmenter d'un euro, ça ne marche pas.
Si, augmenter d'un euro, ça marche. Là, c'est une augmentation qui va être de moins de... En gros, c'est en dessous de 5%, ça ne marche pas. Au-dessus de 5%, ça marche. Et une augmentation, cette année, on va augmenter seulement de l'inflation. Alors, il est prévu que dans 2 ans, on augmente de 1 euro, mais ça dépend quel sera le taux d'inflation à ce moment-là. Si l'inflation est très importante et de l'ordre de 7-8%, ça ne fera en fait aucune augmentation, rattrapage de l'inflation. S'il n'y a plus d'inflation, ça fera une certaine somme.
Ouais, parce qu'on voit que les hausses, elles s'échelonnent juste 2025-2027. Oui, 13 euros en 2027, pour vous, ça ne va pas assez vite.
L'Alliance contre le tabac demande 16 euros en 2027 et puis après 20 euros, etc. Mais il faut surtout avoir une trajectoire d'augmentation importante. Là, on a une trajectoire de maintien de la consommation pour que les cigarettiers vendent autant de cigarettes en France, ce qui n'est pas du tout une mesure de santé publique. Et ce que j'ai écrit, c'est que ce n'était pas au ministre de la Santé d'annoncer une mesure qui est une mesure en fait économique pour maintenir le pouvoir d'achat des buralistes. Mmh. Et au détriment, qui c'est qui paye? Ben, c'est les fumeurs qui payent.
Alors le ministre de la Santé n'est pas le ministre des buralistes.
Voilà. Et que si, alors que si on augmente d'un euro, il y a moins de consommation. Donc la totalité de l'argent payé par les fumeurs pour acheter des cigarettes baisse. C'est paradoxal, mais une augmentation brutale diminue l'argent global dépensé par les fumeurs.
Professeur Dotzenberg, quand on est comme vous, spécialiste, un tabacologue, est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose qui s'apprend sur le tas ou il y a vraiment un enseignement pour accompagner cet arrêt du tabac ?
J'ai commencé à m'occuper du tabac en 72, où il n'y avait rien et aucun enseignement et on faisait un peu de la... on testait les techniques magiques, j'allais dire, avec des réunions de groupe pour écouter les gens. Et après, on a eu même la cigarette électronique qui est venue, par exemple, en 2012. Mon premier réflexe, c'était d'ouvrir à la Pitié, où je travaillais à l'époque, une consultation avec marqué cigarette électronique. Et la plupart des gens qui venaient étaient des médecins et des infirmières. Et je leur disais, ben, vous êtes là pour m'enseigner. Dites-moi comment ça se passe, apprenez-moi. Donc, le médecin se forme en écoutant les autres. Il faut être capable d'écouter les autres et de ne pas avoir d'idées préconçues.
Et c'est vrai qu'on va entendre des auditeurs qui vont dire « Aidez-moi, donnez-moi un conseil ou une méthode pour vraiment arrêter de fumer. » Précisément, dans ce qui marche, c'est quoi ? C'est plutôt la peur, c'est plutôt le substitut. Ça, on va en parler bien évidemment, c'est très très important. Mais est-ce que par exemple le discours qui met en avant les maladies du tabac, cancer du poumon, BPCO, même l'impact sur la sexualité, hein, c'est aussi important, tous ces dangers pour la santé, ça fonctionne ou pas vraiment ?
Globalement, ça fonctionne si les gens ne les connaissent pas. Maintenant, en France, on a sur les paquets, c'est marqué le tabac tue. Hein.
C'est-à-dire que c'est illustré par des photos redoutables.
On a quand même un produit où c'est marqué ce produit tue. Mm. Et imaginez un yaourt sur lequel il y a marqué ce yaourt tue. Personne ne voudra acheter ce yaourt. Et là, on achète un produit sur lequel il y a marqué ce tabac tue.
En même temps, je vais vous démontrer par l'absurde, c'est qu'aux États-Unis, le marché des armes à feu, ça porte très bien. Tout le monde sait que ça tue aussi. Ça n'empêche pas les gens d'acheter des choses. Question Facebook, Caboret, justement, en Côte d'Ivoire. Il demande, après les poumons, quel est l'organe le plus touché quand on fume ?
C'est les organes cardiovasculaires qui sont le plus touchés. C'est les vaisseaux, donc les vaisseaux du cerveau avec un risque de se retrouver hémiplégique, paralysé d'un côté, ou les vaisseaux du cœur avec le risque d'avoir un infarctus du myocarde, ou les vaisseaux des jambes avec risque d'avoir une artérite ou d'être amputé d'une jambe à cause du tabac. Et ce risque est tout à fait énorme. Si, pour l'anévrisme de l'aorte, par exemple, la dilatation de la principale artère du corps, l'aorte, le risque est divisé par 8 si on fume.
Oui, c'est énorme.
Au bout de 1, on a 8. Alors, c'est moins que pour le cancer du poumon, on a un risque divisé par 20 et 30, mais c'est quand même beaucoup.
Alors, pour se motiver, on peut se dire, au bout de combien de temps, si j'arrête, eh bien, mon corps va redevenir mon corps d'avant. C'est aussi une question que pose Caboret. Par exemple, si on arrête de fumer, est-ce qu'il y a des études pour savoir comment l'organisme va, en quelque sorte, se régénérer et finalement ressembler à celui d'un non-fumeur ?
Alors le tabac donne des dizaines et des centaines de maladies et la vitesse de régression est très différente. Ce qui régresse le plus vite, c'est la disparition du monoxyde de carbone qui dans le sang prend la place de l'oxygène et asphyxie. Ça se passe en 2 jours. Mmh. Après, c'est la renormalisation de la coagulation du sang. Le fumeur a tendance à faire plus de thrombose des artères, à boucher plus les artères, donc plus d'infarctus, plus d'accidents vasculaires cérébraux. Et ça, après une semaine, c'est déjà beaucoup mieux. Donc le risque vasculaire, par exemple, régresse assez vite. Par contre, le risque, par exemple, de cancer du poumon, si vous avez fumé pendant 30 ans, ben, vous allez garder le risque, l'augmentation du risque du cancer du poumon que vous avez eu avec ces 30 ans de tabagisme, mais il s'arrêtera d'augmenter. Et comme ce risque augmente beaucoup avec l'âge, ça le fait. Mais en gros, un fumeur sur 2 va mourir d'une maladie au tabac et va perdre alors 20 années de vie en bonne santé. Ce qu'il faut savoir,
c'est colossal.
C'est 20 années de vie en bonne santé, c'est beaucoup. Oui.
Première question en direct, on part pour la Côte d'Ivoire.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
Bafétégué, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, Bafétégué, 43 ans, et vous fumez depuis plus de 20 ans, hein, c'est ça ?
Oui, oui.
Et vous fumez combien de cigarettes par jour, Bafétégué ?
On va dire un paquet, ou un peu moins.
Presque un paquet, presque 20 cigarettes par jour. Aujourd'hui, vous voulez arrêter de fumer. Très concrètement, pourquoi est-ce que vous souhaitez arrêter aujourd'hui ?
Depuis un certain moment, j'ai fait quelques petits constats au niveau de la santé.
Oui.
J'ai la respiration qui n'est pas très régulière.
Oui.
J'ai je m'étouffe très très vite.
Vous dites, je m'étouffe, je m'essouffle. Est-ce que ça vous empêche même de faire certaines choses? Par exemple, je pense à des activités sportives. Est-ce que ça peut vous empêcher de courir?
Ouais, bon, pas courir, ça m'empêche pas de courir, mais ça m'a pratiquement empêché de continuer la pratique du football.
La pratique du football. Donc, vous avez arrêté le foot à cause de la cigarette, on comprend. C'est, bon, on va dire, c'est vraiment quelque chose de très regrettable. Est-ce que vous avez d'autres difficultés? Je pense, par exemple, dans l'intimité, des choses comme ça.
Ben oui, j'ai honte de le dire, mais j'ai du mal souvent à satisfaire ma petite amie.
Ben, il n'y a pas à avoir de honte. Hein. C'est vrai que quand on a envie de faire l'amour et d'avoir du plaisir à deux, si on est bloqué par la respiration ou par des problèmes, on va dire simplement d'endurance, ça peut être extrêmement pénible. Votre compagne, votre partenaire, vous a fait des remarques à ce sujet?
Oui, beaucoup de remarques, même, et ça a même créé des problèmes entre vous.
Entre vous. Et vous savez que c'est lié au tabac?
Je me suis dit.
Ouais, vous avez dit que c'était à cause de ça. Votre besoin de fumer, Bafétégué, il est dans quelles circonstances? Est-ce que, par exemple, à quelle heure est-ce que vous allumez votre première cigarette le matin?
C'est vraiment très tôt le matin, à 5 heures du mat. Quand je me réveille, j'allume ma première cigarette.
Vous fumez même à jeun, on va dire même avant le premier café ou le premier thé du matin?
Ouais, bien sûr.
Ouais. Et cette cigarette-là, elle est essentielle pour vous, pour commencer la journée?
Ouais. Parce que je me suis toujours dit, une bonne cigarette dès le matin, je commence bien ma journée.
Alors, je vous entends arriver et venir près du micro. Restez, s'il vous plaît, bien collé au téléphone. J'ai une dernière question. Est-ce que vous avez déjà essayé d'arrêter, fait une pause dans votre consommation?
Oui, j'ai fait une pause en 2017. C'est à la suite d'une maladie.
Ouais.
J'ai été malade, j'ai subi une opération.
Ouais.
Et donc, durant ma convalescence, j'ai profité pour arrêter.
Oui.
Voilà. Mais quand j'ai repris...
Oui, pourquoi vous avez repris? Pourquoi vous avez repris?
Ce qui a fait que j'ai repris la cigarette, c'est d'abord la peur de mon boulot.
Oui.
La peur de mon boulot, le stress. Voilà.
Donc, ce qu'on va dire, un coup dur, vous avez repris. Mais en tout cas, ce que vous avez compris à ce moment-là, c'est que vous pouviez arrêter, Bafétégué.
Ben oui. Ouais. Mais maintenant, j'ai des difficultés pour arrêter. Même quand je me réveille et que je dis, bon, aujourd'hui, je ne fume pas, il y a toujours quelque chose qui vient m'emmener à allumer une cigarette.
Donc, vous, aujourd'hui, ce que vous voudriez, c'est des conseils pour arrêter, c'est ça?
C'est ça.
Est-ce que vous avez déjà entendu parler des substituts?
Vaguement.
Vaguement. Et en tout cas, vous êtes en Côte d'Ivoire. C'est pas quelque chose qui est très très connu du grand public, que ce soit les gommes, les patchs, tout ça, c'est pas très connu.
Oui.
Non, c'est pas connu. Non. Professeur Dotzenberg, vous avez suivi l'entretien avec notre auditeur d'Abidjan, fumeur de longue date, en quête de conseils. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Bonjour et bravo de témoigner déjà. Sur le fond, il est la caricature de la personne qui a eu une inoculation de la dépendance tabagique par l'industrie du tabac quand elle était jeune, qui lui a créé au niveau du cerveau des récepteurs nicotiniques en grand nombre. Et c'est marqué dans les documents de l'industrie du tabac. Il faut que les teenagers, donc les moins de 20 ans, deviennent dépendants à la nicotine de façon à ce qu'on continue à faire des affaires et à gagner des sous. Si on n'arrive pas à faire ça, nous, industriels du tabac, on pourra plus payer des belles voitures, on n'aura plus d'argent.
Carrément. C'est vraiment une stratégie.
C'est l'exploitation de la jeunesse. Les mêmes industriels disent « Ok, il y a une chance sur deux que ça les tue prématurément, mais on va dire que c'est de leur faute, c'est eux qui ont décidé. » Ce n'est pas du tout eux qui ont décidé. Vous avez le cerveau trafiqué comme si vous aviez acheté un téléphone avec marqué « Faut envoyer je ne sais pas combien de francs CFA » ou je ne sais plus quelle est la monnaie.
C'est le franc CFA, toujours.
Qu'il faut envoyer ça en Biélorussie ou dans je ne sais pas quel pays tous les matins. Dans ces cas-là, vous changez la carte de votre téléphone. Quand c'est le cerveau, on ne peut pas changer le cerveau. On a son cerveau, il faut vivre avec. Et donc, cette maladie est incurable. C'est-à-dire vous serez toute votre vie un fumeur, soit un fumeur qui fume, soit un fumeur qui ne fume pas. Alors, on peut vous mettre en rémission complète. Et là, quand vous étiez arrêté pendant 7 mois, vous étiez mis en rémission. Mais quand on est rémission, quand on est fumé dans l'heure du lever, dès le matin, dès qu'on reprend une cigarette, le lendemain, on en prend deux et après, on achète un paquet.
Donc là, il y a le constat. Maintenant, il veut des solutions, cet auditeur. Alors,
la solution, c'est d'arrêter. Alors, chez nous, le plus simple, c'est de donner de la nicotine non fumée à la bonne dose. C'est-à-dire que moi, j'organise un festin de nicotine non fumée. On a l'avantage en France d'avoir tous les médicaments gratuits, enfin gratuits ou complètement
remboursés,
on ne paye rien. Ouais. Et donc, je prescris des patchs, des gommes, des pastilles, des inhaleurs, des sprays et tous les produits, et éventuellement la cigarette électronique pour ceux qui veulent.
Alors, c'est vrai qu'on a déjà interrogé vos confrères en Afrique subsaharienne. Bon, non seulement on le sait, ce n'est pas remboursé, ça coûte plus cher que le tabac, mais quand même. Bafétégué, si vous, on vous dit, il va falloir payer un petit peu plus cher pendant, on va dire, 6 mois dans un premier temps, même
trois
pas
mois.
Trois mois dans un premier temps, mais ça va vous débarrasser du tabac. Est-ce que vous seriez prêt à aller à la pharmacie, discuter avec le pharmacien, peut-être en parler d'abord avec votre médecin généraliste, pour dire, voilà, qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Des patchs, des gommes, pourquoi pas les deux, je ne sais pas. En tout cas, en parler avec un médecin et envisager une stratégie ensemble.
D'accord.
Ben, je pense que c'est ça ce qu'il faut faire. Il faut en parler aux médecins. Vous savez, les médecins, ça donne des médicaments. Ça aussi, ça aide à se débarrasser de poison du quotidien. Un poison comme la cigarette, c'est quelque chose de très important. En tout cas, quand on vous écoute, on a l'impression que dans vos têtes, c'est là. Hein, vous avez envie vraiment d'arrêter.
J'ai vraiment envie d'arrêter.
Oui. Non, mais vous avez parfaitement raison de vouloir envie. Mais moi, en France, je traite même les gens qui n'ont pas du tout envie d'arrêter. C'est-à-dire que je leur dis, on va remplacer vous pensez fumer par plaisir parce que c'est votre comportement. Moi, je pense que vous fumez parce qu'on vous a mis dans la tête des récepteurs nicotiniques. On va nourrir les récepteurs nicotiniques avec la nicotine non fumée. Et je leur mets le menu avec entrée, plat, fromage, dessert de nicotine. Ils choisissent ce qu'ils veulent. Et parmi les plats qu'ils veulent, ils prennent leur nicotine et ils s'aperçoivent qu'ils n'ont plus envie de fumer. Si on a la bonne dose de nicotine, on ne doit pas avoir envie de fumer. Quand on a la bonne dose de nicotine non fumée, on est incapable de fumer une cigarette en entier. On est comme un gamin, on peut fumer la moitié de la cigarette, après l'autre moitié de la cigarette, la bouche est pâteuse, c'est plus bon et on a envie de l'éteindre. Tant qu'on peut fumer une cigarette en entier, c'est qu'on n'a pas assez de nicotine et on peut le faire. Après, une fois qu'on a zéro cigarette, chez l'immense majorité des cas, il y a une diminution du nombre de récepteurs de 1% par jour, donc de 1/3 par mois. Donc au bout de 3 mois, on n'a plus le récepteur nicotinique à la surface de la cellule. Donc ils sont toujours là en réserve à l'intérieur, ils peuvent ressortir, mais on est en rémission complète après 3 mois où on a remplacé la nicotine de la cigarette qui est donnée en claque par la nicotine donnée en caresse, des substituts nicotiniques.
Donc on respire au bout de 3 mois.
Ah non, on se respire bien avant, à partir du moment où... Non, à partir sur le risque cardiovasculaire...
On va respirer aussi sur ce besoin très intense de fumer, quoi.
Non, normalement, on n'a aucun besoin de fumer, on n'a plus envie de fumer, et donc on ne fume plus de façon simple. Et l'amélioration de la santé survient dès qu'on passe de la nicotine fumée à la pas fumée, il y a déjà une amélioration de la santé dans la semaine, faut pas attendre 3 mois.
Donc ça va vite, c'est du rapide. Merci beaucoup pour votre appel, Bafétégué. Bonne journée à Abidjan. On va poursuivre notre échange. L'accompagnement quand on veut arrêter de fumer. D'autres questions d'auditeurs en direct, ce sera juste après. Rawa, Yana et Servando, La Tormenta sur RFI.
Nos saca de este paquete. Suficiente con tanto dolor. Le cayó mierda al ventilador. Deja tu amargue. Ya deja el alarde. No se ponga cifrina, comadre. Estamos todos navegando en el guaire. Nos dejaron también en el aire. Hay que pasar, hay que pasar, hay que pasar la tormenta. Tormenta. Hay que pasar, hay que pasar. La tormenta.
La tormenta, según como la mires, puede ser menta. Hasta te refresca, hace que el amor crezca. Entonces, mami, ¿por qué tan negativa? Vamos a la guaira en cava, tú pones la cava y yo la birra. Y deja el feo, bebé.
No se ponga cifrina, comadre. Estamos todos navegando en el guaire. Nos dejaron también en el aire. Hay que pasar, hay que pasar, hay que pasar la tormenta. La tormenta. Hay que pasar, la tormenta. Hay que pasar, hay que pasar.
tormenta.
Mira, 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 para acá. Pórtate, carajito.
Cerrando con ragua, saca el paraguas, te vamos a ar.
La tormenta.
Priorité santé, moi sans tabac, arrêter de fumer, un défi qui s'accompagne toujours en compagnie du professeur Bertrand Dotzenberg, tabacologue à l'Institut Arthur Verne. Justement, ce mois sans tabac, avec les questions des auditeurs en direct, on part au Niger, à Zinder, où l'on retrouve en ligne Mahamadou. Bonjour.
Bonjour. Bonjour Caroline.
Mahamadou, vous avez 22 ans. Vous fumez depuis que vous avez quel âge ?
Depuis les 13 ans.
13 ans, donc depuis le collège, que vous étiez tout jeune. Aujourd'hui, c'est quoi votre consommation ? Combien par jour ?
Ma consommation, bon, je fume 8 à 10 cigarettes par jour.
8 à 10 cigarettes, et vous commencez dès le matin, dès que vous êtes réveillé ?
Oui, dès que je suis réveillé.
D'accord.
Mais ça dépend aussi.
Ça dépend des jours. Est-ce que vous avez déjà arrêté ? Est-ce qu'il y a déjà eu des pauses ?
Oui, effectivement. Plusieurs tentatives.
À quelle occasion ? Est-ce qu'il y a eu des occasions particulières, des explications ? Pourquoi, à tel moment, vous, Mahamadou, vous avez décidé d'arrêter ?
Et bon, en tout cas, ça dépend des moments. Ça dépend des moments, surtout... Ça dépend en tout cas des moments.
Ça dépend des moments. Vous faites quoi dans la vie, Mahamadou ?
Je suis étudiant.
Étudiant en quoi ?
Étudiant en médecine.
Alors, vous êtes étudiant en médecine. Est-ce que ces études en médecine, ce que vous apprenez et votre pratique du tabac, on va dire cette habitude, cette dépendance, ça entre un petit peu en collision ? Ça vous crée des problèmes ? Une réflexion personnelle, je dis, je suis en train de travailler sur la santé et en même temps, je suis en train de m'intoxiquer. Est-ce que ça vous pose des problèmes ?
Oui, ça me pose des problèmes. Ça me pose, parce que, en tout cas, parfois, je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien aussi, puisque... Moi, mon plus grand problème, c'est
oui.
quoi ?
C'est quoi ?
Mon plus grand problème, c'est comment arrêter ? C'est comment arrêter ? C'est la question. C'est même ce qui m'a un peu incité à participer.
Ben, je comprends bien. Les gens qui fument et qui sont un petit peu dans une situation de dépendance, leur envie, hein, faut pas rêver quand même, c'est quand même d'arrêter, professeur Dotzenberg. Et c'est vrai, on se dit, je voudrais arrêter cette fois-ci, que ça marche vraiment, parce que j'ai arrêté plusieurs fois et on peut ressentir un grand sentiment d'échec en cas de rechute.
Oui, tout à fait. Les fumeurs, on accuse les fumeurs d'être fumeurs. On leur dit que c'est de leur faute et qu'ils n'ont pas de volonté, alors que bien souvent, ils sont des victimes. Quand j'avais l'âge de Mahamadou, moi, je fumais à la fac de médecine de Paris. On fumait dans l'amphithéâtre. Le prof fumait à la tribune. On était 1000 dans l'amphi à fumer tous ensemble. On avait des petits cendriers en papier dans lesquels on mettait nos mégots. Donc, les choses ont bien changé. Mais à l'époque, on savait que le tabac, c'était pas bon, mais pas à ce point-là. Maintenant, on a quand même des données scientifiques qui sont tellement énorme et tellement importante sur le bénéfice. Et je reprends un petit peu ce que je disais tout à l'heure, ça dépend un petit peu s'ils fument tous les jours ou pas tous les jours. Mmh. À partir du moment où on fume 8-10 cigarettes tous les jours et qu'on fume dès le lever, on est dépendant. Mmh. Si on ne fume pas tous les jours, il y a beaucoup plus de comportements et c'est plus simple à faire. Donc si on fume tous les jours dans l'heure du lever, il faut vraiment essayer d'avoir des substituts nicotiniques. Et si l'étudiant en médecine, il doit se débrouiller pour en avoir, pour avoir d'autres formes de nicotine non fumée qui donnent des caresses de nicotine au lieu de donner des claques et qui n'augmentent pas le nombre de récepteurs. Alors que chaque cigarette, les premières bouffées, ça va, mais dès qu'on arrive à la deuxième partie de la cigarette, il y a trop de nicotine par rapport au nombre de récepteurs nicotiniques dans le cerveau, ce qui crée de nouveaux récepteurs. C'est comme quand ça vous gratte. Si vous
c'est
grattez
envahissant, en quelque sorte.
Ben, quand ça vous gratte, si vous grattez deux fois, ça va. Mmh. Mais si vous grattez 15 fois, ça vous gratte parce que vous êtes gratté. Alors que si vous vous caressez seulement là où ça vous gratte, ça supprime. Mmh. Donc c'est la même chose pour les récepteurs nicotiniques et le cerveau. Donc soit il fume dans l'heure du lever tous les jours et il faut vraiment qu'il essaie d'avoir des substituts, c'est plus simple. Soit il fume pas l'heure du jour et c'est une question de décision à prendre et à se mettre des règles pour restreindre les endroits où il fume. Et ils gardent une certaine liberté. Mais ceux qui fument dans l'heure du lever, ils sont esclaves du tabac à vie. Il n'y a aucune solution de fumer une cigarette un jour.
Mais ça peut s'arrêter. Mahamadou, est-ce que vous savez, vous, où vous procurez à Zinder des substituts nicotiniques ? Ça veut dire des patchs ou bien des chewing-gums, des pastilles ?
En tout cas, ici à Zandarma, je sais pas. En tout cas,
À la pharmacie.
Absolument. Jamais demandé.
Eh bien, il faut demander. Demandez. S'ils n'en ont pas, vous allez à une autre pharmacie. En tout cas, vous faites. Si vous êtes, en tout cas, si vous êtes motivé, hein, je ne vous dis pas quoi faire, vous êtes grand. Mais en tout cas, si vous êtes motivé, allez voir dans des pharmacies. Parlez-en au pharmacien. Dites, je voudrais un substitut au tabac. Est-ce que vous avez des chewing-gums à la nicotine, par exemple? Demandez-lui et vous verrez. Essayez, au lieu d'allumer la première cigarette demain matin, prenez un petit chewing-gum et voyez comment ça se passe. Au cas où, écrivez-nous sur Facebook pour dire comment ça s'est passé. On ne sait jamais si vous passez une première journée, puis une deuxième journée, une troisième. Ça sera une excellente nouvelle. Et en plus, quand vous aurez réussi vos études en médecine et que vous direz non seulement je suis médecin, mais en plus je suis non-fumeur, vous aurez tout bon. Voilà, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Très, très bonne journée, Mamadou. Un grand merci pour votre appel et on part pour la République démocratique du Congo.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
Allô, Joël, bonjour.
Bonjour, bonjour RFI, bonjour à tous les auditeurs.
Alors,
bonjour.
Alors vous, Joël, vous le dites d'emblée, vous détestez la cigarette. Je ne vais pas vous demander de dire pourquoi, parce que je ne suis pas d'accord, mais dites-moi quand même pourquoi vous détestez la cigarette.
Ah oui, merci beaucoup. Je déteste la cigarette parce que j'ai beaucoup de méfaits que la cigarette a fait dans mes entourages. Où j'ai comme le souvenir, dans les 3 ans passés ici, je vais perdre 3 personnes de mes proches, où ça a été une douleur. Ou entre autres, un était un frère de la famille, et il était consommateur actif de cigarettes, et par après, il avait développé les maladies cardiovasculaires. Et on avait beaucoup dépassé, et on avait compris à Arrêta que c'était... C'était une maladie liée à la consommation de tabac, puis il était décédé. Et l'autre personne, c'était toujours un frère. Suite à la surconsommation de tabac, il avait développé la tuberculose. On lui avait soumis à des interdictions de consommation de tabac. Il n'avait pas fait l'usage, puis il était décédé, et aussi l'autre frère.
Donc ça veut dire que, là je me tourne vers le spécialiste, hein, le médecin qui est avec nous, professeur Dotzenberg, la tuberculose, c'est vrai que c'est une infection, mais quand on fume en plus et qu'on a la tuberculose, on est d'autant plus vulnérable ou il y a une causalité directe?
Les données sont très claires. Si on fume, on a plus de chances d'avoir une primo-infection tuberculose, d'avoir une tuberculose maladie, et on fait plus que doubler le risque de mourir de la tuberculose. Donc la tuberculose est liée à un microbe, mais ce risque est doublé. C'est la même chose si on a une infection par le VIH qui est aggravée par le tabac. C'est la même chose si on a une pneumonie à pneumocoque, la pneumonie la plus fréquente qui est aggravée par le tabac. Pour les maladies du foie aussi, en France par exemple, si vous avez une maladie du foie, une cirrhose du foie, une hépatite B, une hépatite C, l'arrêt du tabac est un traitement essentiel de cette maladie. Si vous avez une maladie cardiovasculaire comme un de ses autres proches, c'est aussi un traitement essentiel. Et pour la tuberculose, c'est un traitement essentiel. Et au niveau mondial, l'OMS a couplé les traitements anti-tabac et tuberculose dans les villages et tout ça pour faire les deux parce que c'est un traitement efficace de la tuberculose.
Alors Joël, donc plusieurs personnes de votre entourage directement frappées par les maladies du tabac. Vous, en plus, vous ne supportez pas l'odeur du tabac, hein, c'est ça?
Oui, exactement. Moi, je ne supporte pas le tabac. Comme preuve, il y a 4 mois passés, j'étais dans une habitation collective où j'étais locataire. Et il y avait quelques de mes voisins, ils étaient des consommateurs de tabac. Ils ne faisaient pas l'usage de se mettre à l'écart pour consommer. Et je leur avais montré qu'on est vraiment les souffrants. On est le consommateur passif et ça peut nous créer des maladies toxiques. S'ils peuvent peut-être s'éduquer de manière à se mettre à l'écart pour fumer, ils n'avaient pas écouté. Et j'étais obligé de changer l'appartement, de chercher une maison de location où je vais me sentir au moins en sécurité parce que les méfaits de tabac, j'en ai déjà comme exemple et je ne peux pas en blaguer.
Je comprends tout à fait ce que vous dites. Donc, vous avez carrément déménagé pour ne pas devenir finalement un fumeur passif. Avec tous ces risques du tabagisme passif, professeur Dotzenberg, là aussi, c'est documenté par des études. Quand quelqu'un fume à côté de nous, on en fait aussi les frais pour notre santé.
Alors, il y a des études très claires dès que c'est à l'intérieur des maisons, des endroits où, qui sont clos, mais ça existe indiscutablement à l'extérieur quand c'est une cour pas ventilée, par exemple, ou les terrasses des cafés, par exemple, à Paris. Sur les terrasses des cafés, il y a une pollution par les particules fines, par le monoxyde de carbone exhalé qui est considérable, alors qui est moins importante qu'à l'intérieur, mais qui est aussi considérable. Et le principe de base et les nouvelles réglementations qui sont liées en France visent à favoriser le fait que personne ne respire la fumée des autres.
En tout cas, on entend véritablement chez notre auditeur du Congo une aversion pour le tabac. Il y a des gens comme ça qui viennent vous voir. Je ne sais pas si les tabacologues reçoivent aussi des personnes qui sont victimes du tabac sans fumer, mais qui sont en fait excédées par cette consommation. C'est oui, l'entourage.
C'est en fait plutôt les associations qui reçoivent ces plaintes, et des associations fréquentes. Par exemple, c'est les gens qui habitent dans des immeubles au-dessus d'un bar, ou à côté, ou le voisin qui les enfume en permanence. Et quand c'est 24 sur 24 et qu'il y a des bébés à la maison, c'est quelque chose de très énervant. Oui.
On comprend que ça peut être très gênant. On a Iskima du chat qui demande s'il y a un lien entre la dépendance, entre le tabac et l'alcool. Parce qu'il a un ami qui ne fume pas régulièrement, mais dès qu'il boit de l'alcool, eh bien, c'est systématique, il ne peut pas s'empêcher de fumer. Alors il se demande, est-ce qu'il y a des explications pour comprendre cette envie, cette dépendance conjointe, professeur ?
C'est pas vraiment une dépendance conjointe, c'est que dès qu'on est le cerveau alcoolisé, on a le cerveau qui fait des bêtises et on met moins de préservatifs quand on veut faire l'amour. Quand on conduit sa voiture, on dit qu'on peut conduire alors qu'on peut pas conduire sa voiture et on se met à fumer des cigarettes. Donc c'est lié au fait que le cerveau n'est pas en état de fonctionnement normal et on fait du grand n'importe quoi. Et c'est assez fréquent que même que les fumeurs fument beaucoup plus quand ils sont en soirée, mais ils ont un peu la gueule de bois et l'impression d'avoir trop fumé aussi en sortant.
Alors, on a une auditrice en ligne du Gabon de Libreville. C'est vous, Audrey. Audrey, bonjour.
Bonjour.
Alors Audrey, vous, c'est votre maman qui vous inquiète. Il faut dire qu'elle fume depuis très très longtemps, qu'elle a eu de gros problèmes de santé à cause de cette consommation de cigarettes. Expliquez-nous déjà ce qui s'est passé pour la santé de votre mère, s'il vous plaît.
Alors, elle a 73 ans maintenant.
Ouais.
Elle s'est passée en 2020. Elle avait mal aux pieds et puis une ampoule. On est allé à l'hôpital, c'est aggravé.
Excusez-moi Audrey, parce que vous êtes vraiment très très loin. Est-ce que vous êtes... Il y a beaucoup de bruit autour de vous. Est-ce que vous pouvez rapprocher vraiment le téléphone le plus proche possible de votre bouche pour qu'on puisse bien profiter de ce témoignage? Vous nous disiez, votre maman a été hospitalisée suite à des lésions aux pieds alors qu'elle était une grande consommatrice de tabac, c'est ça?
Oui.
Et qu'est-ce qu'ont dit les médecins à ce moment-là?
Les médecins ont dit que c'était des méfaits du tabac à long terme. On n'a pas donné le nom d'une maladie, ils ont simplement dit que c'était les méfaits du tabac à long terme.
Et elle a dû être opérée, votre maman?
Elle a dû être amputée de la jambe.
Amputée carrément. Donc là, on a vraiment une extrême complication du tabagisme. Et c'est une réalité, hein, professeur. Ça peut arriver à un tel point, on va dire. C'est quoi? C'est les artères qui sont encrassées, qui se bouchent? C'est quoi?
C'est les artères qui se rétrécissent d'une part par l'athérosclérose et qui d'autre part font des thromboses. C'est une gangrène. Et ça arrive souvent, mais les gens qui ont ces choses-là sont le plus souvent tellement dépendants du tabac parce qu'il y avait des signes qui montraient que ça n'allait pas bien. En général, avant qu'on soit obligé d'amputer, on est gêné pour marcher. Il y a une limitation du périmètre de marche, comme on dit. C'est-à-dire qu'on peut marcher 100 mètres ou 50 mètres, puis 20 mètres, puis 10 mètres. Et c'est qu'après que survient la gangrène. Et c'est des gens qui sont sélectionnés pour être particulièrement dépendants au tabac. Et là, il faut vraiment, vraiment les aider. Mais si on parle sur le raisonnement, en disant tu te rends pas compte, on t'a coupé la jambe parce que tu fumes, ça marche pas. C'est des gens qui sont complètement malades,
intoxiqués,
et il faut leur donner de la nicotine non fumée si on peut en avoir.
Est-ce que votre maman justement a déjà essayé ça? Mais en tout cas, il y a un problème avec votre maman qui est vraiment très dépendante parce qu'elle fume même pendant la nuit, elle se lève pour fumer. C'est qu'elle dit en gros qu'elle a pas forcément envie d'arrêter, hein, c'est ça?
Non mais.
Donc ça veut dire qu'il faut l'accompagner, il faut l'accompagner pour l'aider à avoir envie en fait.
Non.
Non seulement même pas attendre qu'elle en ait envie, c'est ça.
C'est si vous demandez, les gens qui sont comme elle, ils n'ont pas envie de passer du phase où ils fument à la phase où ils ne fument pas et d'être non fumeur, ils ne savent pas ce que c'est. Et c'est pour ça ce que vous proposez tout à l'heure, de leur faire essayer même un jour ou deux la bonne dose de nicotine non fumée en mettant même un jour ou deux les patchs et les gommes, et on s'aperçoit que quand on a la bonne dose de patch, la bonne dose de gomme, on n'a plus envie
ça
de fumer.
Mmh.
Ça change complètement la tête et on sait qu'on est une victime et pas un coupable. Pour l'instant, tout le discours qui culpabilise les fumeurs en disant que c'est de ta faute si tu t'es fait avoir quand tu étais gamin à commencer à fumer, ça ne marche pas et c'est même délétère.
Mmh. Est-ce que vous avez connaissance, justement, Audrey, à Libreville, de la disponibilité en pharmacie des substituts de nicotine? Vous connaissez ça ou pas du tout?
Non, j'ai même vraiment entendu parler.
Jamais entendu parler. Donc, ce qui serait peut-être pas mal, c'est d'aller en consultation, peut-être avec votre maman, l'accompagner, en parler avec un médecin généraliste pour voir un petit peu ce qu'il lui conseille, pour qu'il lui explique comment ça marche, et puis justement, pas avoir cette dimension, maman, tu te rends pas compte, on tient à toi, tu fais n'importe quoi, pas ce discours, on va dire, moralisateur, mais vraiment l'accompagner, lui proposer autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez?
J'ai d'abord une question, parce que je voudrais bien savoir si à 50 ans, on peut encore arrêter de fumer.
Ah oui, c'est important. 73 ans, est-ce qu'on peut encore arrêter?
On peut arrêter de fumer. L'étude la plus vieille, c'est 75 ans sur des Japonais, mais ça marche très bien. Moi, j'ai des clients que je vois en consultation qui ont 80 ans et qui arrêtent très, très bien de fumer comme les autres. Mais ils arrêtent de fumer si on est gentil avec eux. J'ai fait un petit bouquin qui s'appelle « Le plaisir d'arrêter de fumer ». Et quand on leur donne la dose de nicotine qu'il faut, les gens qui continuent à fumer à son âge avec sa maladie, c'est toujours, toujours, toujours des gens qui fument non pas parce qu'ils veulent fumer, mais parce que leur corps les oblige à fumer pour nourrir leur récepteur nicotinique implanté par l'industrie du tabac.
Ça veut dire qu'il faut aussi que l'entourage fasse peut-être un petit effort, justement, pour ne pas aller vers ce fameux discours moralisateur, fais un effort, c'est de ta faute, etc. Mais on va y arriver ensemble, doucement, à ton rythme, et avec l'aide aussi de produits pour t'aider d'arrêter.
Moi, j'ai souvent le problème de couple où la femme, le plus souvent, attrape son mari toute la journée parce qu'il fume. Et j'ai un petit mot pour les messieurs qui adorent ça, qui est entouré du carré noir qu'on a. Si vous souhaitez la mort de monsieur machin, et je mets le nom du mari, continuez à lui donner des conseils. Si vous l'aimez, laissez-le gérer avec son tabacologue. Dans 15 jours, il ne fumera plus.
Oui, mais c'est un petit peu radical quand même.
Oui,
l'humour marche aussi.
C'est sur le plan de rigoler, mais les gens, ils l'affichent sur leur frigidaire.
Oui, parce que ça aide plutôt qu'avoir quelqu'un qui est tout le temps en train
de
montrer du doigt.
Parce que les gens, c'est par gentillesse qu'ils veulent dire c'est de ta faute et faut t'es responsable. Et c'est ce qu'on croit être de la gentillesse et vécu par la personne qui reçoit les conseils comme la méchanceté. Donc, il faut être vraiment gentil et accepter que l'autre soit différent de vous.
Et parfois en souffrance même. Un grand merci à vous, Gaëlle, pour cet appel. Et maintenant, on va partir pour la Côte d'Ivoire.
Priorité santé sur RFI.
En ligne avec nous, professeur Alexandre Kouassi, bonjour.
Bonjour madame.
Alors vous êtes pneumologue et responsable de l'unité d'aide au sevrage tabagique au CHU de Cocody. La consommation de tabac en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez des données, des chiffres pour se faire une idée en quelque sorte de la proportion de fumeurs chez vous?
Oui, en Côte d'Ivoire nous avons environ 20% de la population qui fume. Et il faut dire que ça varie d'une région à une autre. Quand vous êtes en zone rurale, on a moins de fumeurs. Par contre, en zone urbaine, nous avons suffisamment de fumeurs. Et même dans la même population, dans les populations, on note aussi des différences. Par exemple, ceux qui sont moins lettrés, ceux qui n'ont pas un bon niveau d'instruction, fument plus que ceux qui sont beaucoup instruits. Donc, il y a des variations. Mais on note que 20% de la population est ivoirienne.
Professeur, plutôt un tabagisme masculin que féminin?
Oui, il faut dire qu'en Afrique, le tabagisme, c'est d'abord un comportement des hommes. De plus en plus, qu'on voit des femmes qui fument, mais sinon, au départ, c'était des hommes qui fumaient. Ce qui fait qu'en zone rurale, il est rare de voir les femmes fumer, si ce n'est en ville, dans les grandes villes, qu'on voit souvent les jeunes filles qui fument. Parce qu'on a montré... je peux partir.
Oui.
On a montré que, en fait, on note une augmentation du tabagisme féminin. Parce que quand, en 1985, on était aux alentours de 2,5%. Une étude faite en 2009, on montré 4,5%. Et nous avons fait une étude en 2013 qui a montré que le tabagisme ambiant chez les femmes était de l'ordre de 13%. Pour dire que ça ne cesse d'augmenter le nombre de fumeuses en Côte d'Ivoire, surtout dans les zones urbaines.
Alors, depuis le début de l'émission, je pose cette question aux auditeurs en direct et aux auditrices sur les substituts du tabac. Et en fait, ce qu'on entend, c'est que les gens ont très peu de connaissances sur l'existence de ces produits, y compris savoir où aller les acheter. Est-ce que c'est la même chose chez vous, professeur Kouassi ? Pas mal de monde, en fait, ignore l'existence de ces patchs, de ces gommes, de ces, on va dire, de ces bonbons, en fait, tout ce qui peut apporter de la nicotine, mais sans fumer.
Oui, c'est la même chose. En Côte d'Ivoire, c'est rare de voir ces nicotines, ces substituts nicotiniques dans les pharmacies privées. Ça, c'est pratiquement, ça n'existe pas. Et ceux qui font l'effort pour en acheter, parce que les fumeurs demandent, alors c'est très, très, très cher pour la population. Maintenant, nous, ce que nous avons comme, je dirais, entre guillemets, chance, c'est que nous avons un programme qui, par moment, fait des commandes de substances que nous avons au niveau de notre centre de surveillance tabagique pour aider les fumeurs. Mais pour la plupart, nous n'avons pas de médicaments, c'est des conseils.
Des conseils. Donnons. Est-ce que justement, c'est quelque chose que vous aimeriez voir augmenter, cette possibilité de recourir à ces substituts ? Est-ce qu'il y a un petit peu des échanges avec les pouvoirs publics pour dire, c'est vrai, il faut de l'information, il faut des conseils, il faut aussi une réglementation, ça c'est un autre sujet, mais il nous faudrait aussi la disponibilité, puis des aides pour pouvoir donner, distribuer ou acquérir plus simplement ces substituts ?
Oui, c'est toujours ce que nous disons, comme nous avons avec nous, le programme national de lutte contre le tabagisme qui représente le ministre de la Santé. Donc, nous ne cessons de dire au programme que nous avons besoin d'un médicament. Nous avons besoin d'un médicament. Et ça, c'est difficile. C'est difficile parce que, il faut un effort, mais ça ne peut pas. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Et surtout, à un moment, les médicaments, le stock, quand c'est fini, quand il y a rupture du stock, les pharmacies n'en ont pas. Et puis, les malades sont laissés pour compte, on ne peut rien faire pour eux.
Donc vraiment un appel en sens pour que les pouvoirs publics fassent un geste pour davantage justement qu'il n'y ait pas de rupture de stock parce que c'est quelque chose qui est véritablement problématique. On vous dit un grand merci pour cet éclairage, professeur Kouassi. On arrive à la conclusion de notre échange, professeur Dotzenberg. On a bien compris avec vous, c'est pas la peine entre guillemets d'enguirlander les fumeurs, il faut les accompagner et leur proposer les bonnes solutions.
Oui, mais la bonne solution, qui sont les substituts nicotiniques, est malheureusement rare en Afrique et dans beaucoup de pays, et beaucoup, beaucoup plus chère que les cigarettes. Ça devrait être l'inverse.
Ça devrait être l'inverse. Merci beaucoup, professeur Dotzenberg. On va parler bien-être dans quelques instants. Ce sera juste après Schlott God avec Yugomden. Pour le Sénégal, la ville de Thiès soutient la première édition du forum Bien-être. Jusqu'à vendredi, développement durable, santé au programme. On en parle avec vous, Karine Ndiaye, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors vous êtes la directrice des partenariats de Tostan, une ONG qui travaille dans le domaine du développement communautaire. Alors qu'est-ce que peut apporter ce type d'événement ? Qu'est-ce qu'en attendent les participants et les organisateurs ?
Merci de m'avoir reçue. Ce que nous attendons, c'est que pour ceux qui passent leur vie au service des autres, dans le développement communautaire, institutionnel, régional, en Afrique, que nous puissions partager nos pratiques qui sont axées vers le bien-être. Donc, que ce soit du côté médical, du côté psychologique, du côté physique ou du côté organisationnel. Quelles sont les innovations que nous pouvons partager afin de pouvoir rebondir encore plus haut et pouvoir être résilient, sachant que beaucoup de choses changent du jour au lendemain dans notre écosystème.
Alors, dans ces systèmes, justement, ce qui veut dire que, en gros, hein, si je résume, pour bien prendre soin des autres, il faut prendre soin de soi-même. Là, c'est pour le cadre. Maintenant, si on passe au concret, ça veut dire quoi? Ça veut dire des ateliers? Ça veut dire des activités particulières?
Absolument. La charité ordonnée commence par soi-même. Donc, nous avons un aspect artistique où il y aura des ateliers participatifs. Mmh. Nous avons aussi de la musique. Nous avons des opinions et des conseils que vont nous donner des psychologues qui travaillent dans la région. Donc, ce forum étant basé sur l'écosystème africain. Nous avons aussi des traditions africaines que nous souhaiterons partager et renforcer. Et nous allons discuter, apprendre les uns des autres pour se sentir compris et pour se sentir revigoré.
Alors, ça veut dire que tout ça, ça ne nécessite pas forcément des investissements massifs. C'est en fait puiser en ces ressources. Quand vous parlez, par exemple, d'activités artistiques, d'ateliers artistiques, ça veut dire quoi?
Nous allons avoir des ateliers de teinture, des ateliers de peinture, de graffiti, de tissage de panier. Nous avons des vendeuses qui ont préparé des savons holistiques faits à base de produits locaux. Donc des choses, comme vous avez dit, qui ne requièrent pas un coût élevé. Ce qu'on essaie de pratiquer, c'est le bien-être contextuel, qui n'a pas de prix, mais qui a une valeur incroyable pour ceux qui passent leur journée à aider les autres.
Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être un petit peu détaché de certaines réalités, ou au contraire, non? Vous diriez que ce bien-être, cette écoute de soi, c'est aussi quelque chose de tout aussi essentiel que trouver des fonds pour une cause, donner des informations sur la maladie?
Absolument. Ce dont on s'est rendu compte après la COVID, et je pense qu'au niveau global, c'est que le secret n'est pas dans les indicateurs de succès économique. Le secret de la santé et du bien-être est une version holistique du bien-être. Nous sommes multidimensionnels, donc autant dans mon département à Tostane, nous allons vers la mobilisation de ressources, autant nous passons du temps dans les communautés à écouter ce dont eux, ils ont besoin pour pouvoir co-construire avec eux un meilleur lendemain.
Ça veut dire que ce n'est pas les uns contre les autres, ce n'est pas la science, la médecine contre, on va dire, les massages et les arts plastiques. C'est tous ensemble, c'est bien ça?
Exactement, c'est complémentaire et il y a une place pour tout. En Afrique, est-ce que l'art a autant de place que les massages ou les vaccins? Absolument. Donc, allons vers ceux qui pratiquent, vers ceux qui ont les défis et qui ont identifié les opportunités pour apprendre ensemble. Et c'est ce que nous faisons à Tostane depuis 32 ans.
Merci beaucoup, Karinia Ndiaye. Un grand merci à vous et très, très bonne journée au Sénégal. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Ophélie Lassen, Talim Pouo, Didier Bleu, Tom Malki, Léo Travicki. Demain, on va poursuivre ce débat sur les stratégies de lutte contre la dépendance. Alcool, tabac, cette fois, les addictions au pluriel. D'un côté, le discours santé. De l'autre, la pression de l'industrie et des producteurs. Peut-être parfois une forme de laisser-faire de la part des pouvoirs publics. Lobby, dépendance et santé publique. Ce sera demain dans Priorité Santé. On se donne rendez-vous à 9h10, temps universel. Et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec la BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, qui rejoint officiellement le groupe Sounou.